Chapitre 32. Les petites pièces d'un puzzle. Hervé Leclerc était à deux doigts d'envoyer un message à Anaël. Presque 10 jours sans nouvelles. Mais il s'est raisonné. Non, elle ne lui est pas redevable d'un courrier par semaine. Non, il ne doit plus l'enfermer dans des statistiques. Évidemment, elle ne l'a pas oublié. Du moins l'espère-t-il. Mais alors, pourquoi ce silence? Après tout, ce ne sont que quelques jours de plus. Et elle ne représente qu'une occasion d'échanger des petites phrases légères et des idées profondes. Pas plus? Évidemment plus, sinon il n'attendrait pas le facteur aussi avidement. Son cœur ne s'emballerait pas en apercevant la petite lettre au milieu des autres. Il ne relirait pas 3 fois par jour ses derniers courriers et ne penserait pas à elle à chaque instant libre de sa journée, quand le travail n'occupe pas son esprit. Plus donc. Mais quoi? Aujourd'hui, c'est un colis qui porte son écriture. Du chocolat? Célesta, lundi 9 mai. Cher Hervé, vous ne perdez pas le nord. Me servir l'argument de l'intoxication alimentaire avec vos chocolats pour que je vous écrive plus souvent est quand même audacieux. C'est vrai, le mail est plus simple, plus rapide, plus réactif, plus écologique et plus confidentiel. Mais nettement moins charmant qu'une lettre avec un joli timbre dans une boîte. Mon côté fleur bleue? Certes, vous n'auriez plus de problème d'archivage. Mais ne croyez-vous pas que nous risquerions de tomber dans le piège de l'instantanéité et de perdre cette excitation, vous savez, celle de l'attente? L'avantage du courrier postal réside dans le fait qu'il rend le temps incompressible. Celui du transport et de la distribution. Et déjà là, vous êtes impatient. Moi aussi, je vous l'avoue. Je vais voir 3 fois ma boîte aux lettres aux heures habituelles de la tournée postale pour être sûre que le facteur n'est pas passé sans que je l'aie entendu. Et je réprime une grimace de dépit quand il n'y a que des publicités et des factures. Alors oui, je crains que la rapidité d'Internet ne nous pousse à consulter notre messagerie à tout bout de champ et ne perturbe notre travail et nos obligations respectives. Et puis, il n'y aurait pas cette réflexion qui précède l'écriture. Et le soin apporté au courrier. Ne croyez-vous pas? J'ai expliqué à mes parents que je m'étais permis de vous poser quelques questions en tant qu'ancien formateur et que, de fil en aiguille, nous étions restés en contact, au point que vous vous étiez pris d'affection pour moi et montré inquiet que personne ne vous prévienne au cas où. Était-ce du baratin? Et moi, puis-je compter sur quelqu'un pour être prévenu au cas où? Jocelyne? Je vois que vous avez vraiment besoin de vous rassurer à propos de votre épouse. Voici donc ma définition de l'ABMB. Femme d'origine très aisée, qui, de par sa situation financière plus que confortable, pense que tout s'achète et que tout lui est dû. Pas d'amis sincères puisque cela ne se monnaie pas. Un mari qui, face au geignement permanent de son épouse, ces derniers étant d'excellents destructeurs de libido, préfère prendre une petite maîtresse joyeuse et fauchée qui aura tôt fait de lui prodiguer quelques soins aux allures de gâterie, tellement heureuse qu'il la sorte de temps en temps dans les grands hôtels-restaurants de la région, en évitant soigneusement ceux que sa femme fréquente. Bref, aucune frustration matérielle, mais un désert humain qui la rend incommode et revêche. Une femme dont plus personne n'a envie malgré le bronzage, le lifting, la manucure et le régime, parce qu'elle n'est pas intéressante, à force de désert. Et si elle arrive encore à se faire grimper dessus, ce n'est jamais avec la tendresse d'un amour sincère qui chérit l'être dans sa globalité, et pas que pour son derrière. Malheureuse, donc odieuse. Mais peut-on lui en vouloir? Je n'en croise pas souvent, rassurez-vous. Mais quelques patientes du cabinet sont gratinées. J'apprends à ne pas me laisser faire, voilà tout. Vous avez vraiment un doute par rapport à votre femme? Pour ma part, je n'ai pas d'enfant. J'imagine vaguement ce que peut être l'ambiance à la maison avec 2 adolescents à table. Nous l'avons tous été. Je n'ai pas d'enfant et je ne sais pas si j'en aurai un jour. Voilà, Hervé. Je vous dois peut-être quelques explications concernant mon silence et ma mâchoire. Je prends le risque que vous sortiez de mon périmètre de sécurité, dans lequel je me suis réfugiée depuis quelques mois, dans lequel vous êtes entrée par une autre porte, celle de l'esprit et non celle de l'apparence. Avec un peu de chance, cela jouera en ma faveur. Oui, ma mâchoire a été abîmée. Et j'ai subi 3 opérations successives depuis bientôt 1 an pour laisser à mon chirurgien maxillofacial le soin de reconstruire mon morceau de visage enfoncé et lacéré par la tôle et les éclats de verre. Vous comprenez donc que je ne sois pas pressée que vous auréoliez ma personne, car je crois bien que je ne suis plus la même que sur la photo de promotion que je vous ai fournie. Du moins, plus tout entière. Cela dit, mon chirurgien est un magicien, et le résultat est vraiment très proche de la réalité, en dehors de vilaines cicatrices qui ne partiront probablement jamais vraiment, mais qui vont blanchir avec le temps. Un bête accident de voiture comme il en arrive chaque jour. La seconde d'avant, tout allait bien. La seconde d'après, ma vie entière basculait. C'est mon amoureux de l'époque qui conduisait. Il était fautif, en grillant un feu rouge. Il s'en est sorti indemne. Pas moi. La voiture qui venait à droite est rentrée dans ma portière de plein fouet. Ces 3 semaines de silence en avril étaient liées à mon séjour à l'hôpital pour une énième opération de la hanche. Là aussi, le chirurgien fait des miracles, mais ça ne fait pas tout. Le bassin a également été enfoncé et lacéré par la tôle. Voilà pourquoi j'ai arrêté mes études et que je ne les ai pas reprises, car il me fallait trouver ensuite un poste assis. Je ne récupérerai jamais vraiment ma mobilité. J'ai donc un corps en vrac, moins bien rangé que vos petits chocolats dans leur ballotin. Des pièces détachées que les gentils médecins essaient de remettre au bon endroit quand ils le peuvent encore. S'ils aiment les puzzles, avec moi ils sont servis. Une chance que ma tête n'ait rien eu. L'intérieur, je veux dire. Je raconte des bêtises. Elle en a quand même pris un coup, ma tête, car je ne suis plus tout à fait la même. Je vais m'arrêter là. Il m'est encore douloureux d'en parler. Mais bizarrement, avec vous, j'y arrive. Parce que j'ai envie d'avoir confiance, de croire que vous n'allez pas partir en courant, effrayé par la vision que votre imagination vous propose désormais concernant mon aspect physique. Je vous embrasse. Anaëlle, l'auto-tamponneuse. PS1. Surtout, ne me jouez pas le numéro de la pitié, j'en serais blessée. Déjà que... PS2. Ah oui, au fait, le colis. Ce n'est pas du chocolat. Je n'ai pas les moyens de vous offrir un tel coffret. Et je m'en voudrais de vous acheter des produits bas de gamme. Non, vous trouverez un argument supplémentaire à la poursuite des courriers postaux. Hervé replie la lettre et réfléchit. Il se demande si l'image qu'il se fait désormais d'Anaëlle l'effraie comme elle le craint. Il en a vu de graves accidentés durant certains procès. Il sait ce que provoque la tôle et le traumatisme et la lente reconstruction parfois bancale à jamais. Mais il se remémore chacun des échanges, chaque ligne de ses lettres. Il saisit son téléphone et tape un message pour Anaëlle. Il m'a semblé d'une extrême urgence, donc par téléphone, de vous rassurer en vous disant que je n'ai pas envie de partir en courant. Bien au contraire. Pas de pitié à votre égard, bro. Juste de l'affection. Une tendre affection. Le reste par lettre. Hervé.